protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Intitulé « Entre humus et souffle », une nouvelle émission est présentée par votre radio préférée. De quoi s'agit-il ? De botanique ? De sport ? Pas vraiment. Alors pour en parler, j'ai ici son producteur et animateur, le pasteur Didier Fievé. Alors bonjour Didier.
Bonjour Yolande, bonjour à tous.
Avant de parler de votre émission, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, parce que vous avez un parcours atypique. Enfin, atypique, c'est une phrase que je dis presque à tous mes invités, parce que tout le monde a un parcours atypique. Mais enfin bon, on va voir, nos auditeurs pourront juger si c'est atypique. Alors, Didier, est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance ? Je ne vous demande pas vos souvenirs d'enfance, mais au niveau de la religion ou de pas de religion
Alors, je suis né et j'ai été élevé dans une famille catholique, avec des parents qui étaient plutôt engagés, je dirais un petit peu douloureusement, tiraillés entre des enseignements traditionnels et puis une influence que je nommerais avec des guillemets témoignage chrétien de l'époque. C'était, moi je me souviens de ça, j'avais entre 6 et 10 ans, c'était dans les années 60, en pleine guerre d'Algérie, et c'était pas sans laisser des traces chez les gens. J'ai eu ce sentiment de vivre dans une période de crise là encore, ou là déjà. Et je dis toujours, pour filer un petit peu plus vite, je dis toujours que je suis devenu protestant et pasteur d'abord et en grande partie grâce aux prêtres de mon enfance, aux prêtres qui m'ont fait le caté. Parce que c'était juste au moment de Vatican II, c'était des gens qui avaient un charisme et un engagement, notamment un engagement social, un engagement qu'aujourd'hui je retrouve un petit peu dans certains foyers évangéliques. Alors, on s'en apercevra, j'ai pas de tendresse particulière vis-à-vis du monde évangélique, mais il y a une chose qu'on doit remarquer et apprécier, je pense, pour une bonne part d'entre eux, c'est cette espèce d'engagement personnel, je sais pas comment on dirait autrement en français, de commitment, d'être commis à une plus qu'à une cause, à quelque chose qui fait vivre. Et j'ai senti ça beaucoup chez ces prêtres-là, ça m'a beaucoup marqué, ça a déterminé une suite la suite de mon adolescence dans le cadre des aumôneries, mais enfin là, je suis au-delà de l'enfance. Voilà.
Oui, alors ces prêtres, c'était des prêtres ouvriers, c'était courant-là.
Alors certains étaient des prêtres ouvriers, d'autres faisaient partie d'une... je sais pas, c'est une congrégation, un ordre, ou je sais pas quoi, qui s'appelle les Fils de la Charité. Et c'était des prêtres tout à fait engagés, pas seulement socialement. C'est-à-dire que, certes, ils avaient une dimension d'engagement social et surtout d'engagement humain, relationnel, de respect envers les personnes, d'attention envers les petits et ceux qui étaient bafoués dans la société de l'époque déjà. Mais aussi quelque chose qui était de l'ordre d'un attachement personnel à la parole du Christ. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup marqué, parce qu'au fond, c'est quelque chose, une espèce d'attention qui m'anime, j'allais dire malgré moi, quoi. C'est quelque chose qui a été semé.
Mais alors, pourquoi avoir changé de religion, puisque vous parlez avec une grande sympathie, une grande tendresse, même pour ces courants catholiques?
Oui, mais parce que alors pour plusieurs raisons, que je vais résumer en disant la, la grande vague que j'avais vue arriver. J'étais jeune, mais je le sentais profondément. La grande vague d'ouverture, d'intelligence de la foi, de compréhension des textes bibliques. Cette grande vague-là qui avait été levée par Vatican II, je l'ai vue retomber, repartir et laisser un estran, une plage complètement abandonnée au gré de ce qui revient maintenant, c'est-à-dire au fond, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je pense, un reflux très net des traditions, je me souviens très bien, pour ne prendre qu'un exemple, mais d'un prêtre qui s'appelait Gabriel et qui, le jour du, il se trouvait que cette année-là, le 15 août était un dimanche, et qui explique que, mais bon, ça va, le culte marial, ça va bien, la Vierge, elle est à côté, c'est pas elle qui sauve, c'est pas sa parole qui est décisive, c'est pas son action qui est décisive, et ça fonctionnait très très bien. Bon, quand on voit aujourd'hui l'attachement de l'Église catholique dans tout, y compris et surtout parmi les jeunes, à la piété mariale, on voit bien quelque chose qui a été refoulé. Voilà. Donc, ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai été à ce moment-là très proche d'un certain nombre d'amis catholiques et notamment de prêtres, dont un qui s'appelle Stan Rougier, que certains connaissent parce qu'il a beaucoup écrit, etc. Et il se trouvait que c'était un de mes amis et que j'étais très proche de lui. Il a eu des accidents de parcours douloureux et difficile, et j'ai vu la façon dont il a été traité par ses pairs, par son évêque, par l'ensemble de l'Église, et franchement ça m'a profondément atteint. Et puis il y avait cette espèce de, au fond, de c'est bien tout ça, mais je n'arrive pas. Et là, je dois dire, nous n'arrivons pas, parce que c'est lié à mon épouse que j'avais rencontrée au lycée et avec qui on fréquentait les mêmes milieux et on était engagés aux mêmes endroits. Il y avait toujours quelque chose qui était en retrait, et notamment cette question du rapport à la Bible, du rapport au texte biblique. C'est-à-dire quand même chez ces gens très engagés, le texte biblique était... c'est pas gentil ce que je dis, mais c'est le sentiment que j'avais, était plus prétexte à supporter, au sens de soutenir un engagement, que un texte qui venait interpeller et qui venait questionner et qui venait changer les perspectives. Et ça, j'ai vécu ça de nombreuses fois, notamment dans les cadres d'aumôneries de lycée et dont je n'avais pas parti et dont je me suis occupé plus tard. Et puis, existentiellement, la question de la mort a été une question qui m'a beaucoup troublé.
Excusez-moi, la réponse protestante était plus parlante pour vous, puisque vous parlez de la question de la mort. En quoi ça a influencé votre parcours?
Je dirais surtout que ce que j'ai apprécié dans le protestantisme, enfin celui que j'ai découvert, c'était le protestantisme réformé, et auquel je suis extrêmement attaché, vraiment très, très profondément, c'est que justement il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse, et c'est ça qui m'intéresse. C'est le fait que je trouve que, de façon générale, un peu plus globale, je trouve que la foi chrétienne est la seule qui tienne compte pour de vrai, comme diraient les enfants, qui tienne compte authentiquement de la tragédie humaine, de ce que c'est que d'être un être humain, de ne pas pouvoir faire ce que on voudrait faire, de toujours retomber dans ce qu'on ne voudrait pas faire, d'être toujours tenu par l'échéance de la mort, et cette espèce de gâchis permanent dans lequel notre existence est plongée. Et ça, je trouve que le christianisme, et tout particulièrement le christianisme vu par les réformés, le prend totalement en charge. Ce qu'ils appellent le pessimisme anthropologique de Paul ou bien de Luther ou de Calvin, ça prend ça en charge.
Et alors, vous avez parlé donc du rapport à la mort qui était plus parlant du côté protestant. Quels sont les autres thèmes qui vous intéressent, enfin qui vous ont fait devenir un protestant et pasteur?
Alors d'abord c'est la alors il y a plusieurs questions là dans la découverte du protestantisme. Elle se fait au travers de rencontres. Le patron de thèse de mon épouse, des femmes de copains, des parents de femmes de copains qui étaient pasteurs, enfin voilà. Donc c'est d'abord des espèces comme ça d'acquaintances, de rencontres qui font question et qui sont attirantes et qui dans la combinaison d'une certaine rigueur et en même temps d'un certain détachement, d'un certain humour font résistance à un discours lisse. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour laquelle je suis devenu pasteur, outre cet intérêt pour le protestantisme, c'est tout simplement parce que mon premier métier, c'était de la chirurgie dentaire, même si c'était en fait autre chose de plus chirurgical, mais j'étais dans un petit village et je me suis rendu compte, il a bien fallu remarquer que un certain nombre de gens sont venus me voir, évidemment, des fois au cabinet, mais le plus souvent, c'est un petit village en Bretagne où tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie, etc. Sont venus me voir, non pas pour des questions de pathologie buccale, mais pour des questions existentielles, pour se confier. Et quand je leur demandais, mais pourquoi tu me parles à moi? Je suis pas compétent pour ça, je suis pas qualifié. Ils me répondaient, mais parce que je sais que tu es croyant, mais que tu ne vas pas à l'église. C'est-à-dire qu'au fond, ils faisaient la différence entre la foi, ils savaient pas en quoi, mais entre une foi, et puis la religion. Et c'est là où je me suis dit, mais peut-être qu'il y a là une résonance, quelque chose de particulier, parce que je voyais bien combien il m'est arrivé des choses que je ne peux pas raconter, sauf à passer pour un fou, donc je vais m'abstenir, je me suis vu dire des choses dont j'avais l'impression, vraiment le sentiment, qu'elles m'étaient soufflées, qu'elles passaient par moi, que j'aurais été incapable de les formuler moi-même de cette façon, à cet instant, dans d'autres circonstances. C'était pas un discours théorique, c'était juste quelque chose qui m'arrivait. Et c'est ça qui a été déterminant.
Je ne pense pas qu'on vous prendra pour un fou, parce que ça fait quand même penser à l'influence du Saint-Esprit. Bon, dans le protestantisme, on n'est pas forcément contre. Donc, on ne vous met pas à l'asile si vous parlez du Saint-Esprit. On a parlé du catholicisme, on l'a critiqué, enfin du moins l'évolution qu'il a eue. Je voudrais qu'on parle un peu du protestantisme et puis qu'on critique aussi un peu le protestantisme. Vous avez dit que le protestantisme était, enfin vous me l'avez dit à moi, quand on a préparé cette émission, que le protestantisme était trop dans l'ordre du jour. Vous avez parlé notamment Église rouge, Église verte. Alors est-ce que vous pouvez définir assez rapidement, puisque après on va parler quand même d'Église verte, puisqu'on va parler d'écologie.
Oui, alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que je crois essentiel que on garde à la Bible et à la foi un caractère d'altérité, qu'on se garde le plus possible d'en faire la justification d'un engagement idéologique ou d'un engagement politique ou éthique, même éthique. Ça, c'est une complexité, mais en même temps une richesse infinie du vrai protestantisme, pardon pour le vrai, du vrai protestantisme, que de ne pas être à la remorque d'une idéologie. Et ce que on aura compris que je suis pas vraiment quelqu'un qui est pour l'oppression des faibles et des pauvres, que je suis pas vraiment quelqu'un qui est pour le saccage de la planète, mais je trouve que la grâce, ça consiste à nous dire fais ton boulot de citoyen, fais ton boulot d'être humain. Tu es, c'est pas là où tu vas déterminer ta vie. C'est parce que ta vie t'est donnée que tu peux oser te lancer. Ce qui est pas du tout pareil. Et du coup, je suis actuellement très mal à l'aise vis-à-vis effectivement de cette idée de l'Église verte où finalement on n'aurait jamais dû. C'est facile de se battre la coulpe. Et puis c'est facile de culpabiliser les autres. Et puis maintenant, on va rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de l'action. Sans que on se pose jamais des questions qui sont des questions plus en amont, plus fondamentales, plus qui nous aideraient à filtrer les choses.
Ces questions,
par exemple, aujourd'hui, je trouve que moi, je vais le dire avec les mots de quelqu'un dont le nom va sonner aux oreilles des Montpelliérains. Je vais le dire avec les mots de Louis Simon. Louis disait l'Évangile n'est jamais un mot d'ordre. L'Évangile n'est pas un discours d'experts et de savants qui confisque la parole. L'Évangile est un discours de poète qui donne la parole. Et ce que je regrette là aujourd'hui, c'est que finalement, quand l'Église prend la parole, c'est à propos des abus sexuels, c'est à propos de la dégradation de la planète, elle embrasse toutes les causes qui sont des causes entendues, dont il ne s'agit pas de les critiquer, mais qui ne sont pas le cœur même de notre propos. Et je trouve qu'on se laisse aller ainsi à une facilité, une paresse. Alors je vais dire intellectuelle et on va me dire oui, t'es un télo. Mais d'abord, j'avais cru comprendre qu'il y avait tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces et tout ça, mais aussi de toute ton intelligence et qu'il n'y a aucune raison de la laisser à la porte. Et qu'aujourd'hui, même je crois que si on en est doué, c'est pour l'exercer. Et puis, deuxièmement, c'est faux de dire que c'est un télo, parce qu'il y a des gens qui sont des gens qui n'ont pas forcément fait d'études, mais qui comprennent très très bien ce que je veux dire, et puis il y en a d'autres qui ont fait beaucoup d'études et qui se gardent bien de vouloir le faire, le comprendre, ou écouter. Par conséquent, je suis très en colère, puisqu'on parlait de critiquer, je suis très en colère après cette espèce de flottement idéologique entre un renouveau évangélique bonnet, je pèse mes mots, et puis de l'autre côté, quelque chose qui serait uniquement à la remorque des sujets de société. J'attends autre chose de mon Église, j'en ai besoin, même si j'y contribue, j'ai besoin d'une autre parole que ça.
Alors, justement, puisque vous n'êtes pas tellement pour les slogans, disons, les vogues dans l'Église. Alors, votre émission, donc, entre humus et souffle. Alors, on a bien compris que c'était pas l'écologie pour l'écologie. On a bien compris que c'était quelque chose d'autre. Alors, comment vous pouvez la caractériser? Comment vous pouvez nous dire, d'abord, où elle se situe? Entre diviniser la nature ou relativiser tout ce qui nous arrive, comment vous vous situez?
Alors, je me situe pas du tout du côté de du relativisme ou de la relativisation. Je crois que la situation actuelle est suffisamment urgente pour nous poser carrément, aussi bien sur le plan géopolitique que sur le plan écologique, pour nous poser carrément la question de la fin, la question de l'eschatologie, c'est-à-dire qu'attendons-nous? À chaque fois que le dimanche, on dit « Notre Père, que ton règne vienne », de quel règne s'agit-il quand il s'agit en fait de reconduire ce qui a déjà existé et de s'y cramponner? Ça, c'est une première chose. La seconde chose que je dirais, c'est que oui, il y a un risque de divinisation ou de sacralisation de la nature à partir du moment où on dit qu'elle est création et que comme elle est création, elle serait finalement de divine volonté. Mais on voit bien tout ce que ça suppose. Il y a une sacralisation de la vie, il y a une sacralisation... de toute façon, je trouve, on va le dire comme ça, que on sacralise des valeurs au lieu de rester fidèle à rien n'est sacré sauf Dieu, mais précisément tu peux pas lui donner un nom. C'est-à-dire que on sacralise nos causes. Et ça, je trouve que c'est tout à fait dommage. Et je pense que c'est un danger grave qui nous pend au bout du nez. Tous les modèles qui se réclament de la nature sont des modèles qui, en général, sont des domaines de domination. Je sais qu'aujourd'hui, je vais à contre-courant en disant ça, parce que beaucoup d'écolos disent qu'au contraire, c'est de la collaboration, c'est de la symbiose, c'est... L'écoféminisme en particulier dénonce avec beaucoup de justesse, à mon avis, le sort qui est réservé à la Terre et le sort qui est fait aux femmes. Et ça, je trouve que c'est une analyse tout à fait juste et pertinente. Mais il ne faudrait pas que finalement le féminisme d'un côté ou l'écologie de l'autre ou un certain naturalisme de l'autre finalement soit sacralisé. Parce que sinon, on retombe dans une idolâtrie.
Et alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez, au moins dans votre émission, mais quelle est la vision que vous voulez donner?
Dans l'émission, ce que je voudrais qu'on fasse, essayer de faire, c'est débattre. C'est débattre. Donc, c'est justement soit résumer des livres, Latour, je pense à Gour, je pense à des gens comme ça, à Gour, pardon. C'est inviter des gens, je pense à Marc Dufumier, ou des gens qui sont très, très, très engagés sur le plan écologique et pour qui j'ai une admiration et une considération non feinte et sans réserve. Mais en même temps, pouvoir porter ça sur le plan du débat en faisant bien attention à délimiter les zones de compétences, à voir ce qui revient, je dirais à la fois, et ce qui revient à l'engagement citoyen, peut-être, et c'est là, ce serait la troisième chose que j'aimerais qu'il y ait dans cette émission, peut-être porté par la foi, mais qui à ce moment-là n'est pas celui, la foi qui vient justifier l'engagement, mais la foi qui vient apporter de l'espérance dans l'engagement, ce qui est essentiel.
Et alors, pourquoi ce titre, Humus et souffle ?
Parce que je crois qu'au fond, la question écologique est une question qui nous renvoie à la question humaine, à la question de l'identité humaine. La Bible commence par du premier chapitre du premier livre, c'est un Beit, ce qui en hébreu veut dire la maison. Et il y a des rabbins qui disent, mais voilà, c'est le premier ouvrage d'écologie. Apprendre à habiter la terre, apprendre à habiter l'humanité, c'est notre vocation. Et il me semble que le c'est ça que je voudrais essayer que l'on fasse. L'être humain dans ses premiers chapitres de création est présenté justement à la jonction entre ses racines biologiques, son substratum naturel, et puis de l'autre côté un souffle qui n'est pas le sien. C'est peut-être la différence avec les Grecs pour qui l'âme est quelque chose de constitutif. Là, c'est pas l'âme qui nous serait intrinsèque, propre. C'est un souffle qui vient d'ailleurs. C'est le souffle de l'autre. C'est l'haleine de l'autre. Et ça, je trouve que c'est à la fois très incarné et très lié à l'altérité. Je trouve que c'est ça qu'on a apporté du point de vue du témoignage. Et c'est ça qu'on a aussi à essayer de faire valoir dans les orientations qui peuvent être données sur le plan politique, c'est-à-dire se garder d'une idéalisation de la nature.
Et dans cette émission, alors elle a déjà commencé cette émission, elle en est à ses débuts, mais vous comptez donner des conseils pratiques ou rester sur les hauteurs du théologien, je ne vais pas dire intello parce que je ne veux pas polémiquer, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire.
Ben, les conseils pratiques, ce n'est pas à moi de les donner, les conseils pratiques… Je vais être provocateur, mais entendez que je dis ça sur le ton de l'humour. Faites comme moi, adhérez à Greenpeace, et puis c'est votre problème, d'accord? C'est pas le mien. Par contre, ça peut être intéressant de réfléchir à pourquoi et comment. je soutiens Greenpeace ou France Nature Environnement, enfin comme vous voudrez. Et puis c'est aussi montrer comment finalement un engagement, alors je reste très terre à terre et pardon, c'est caricatural, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais comment un engagement à Greenpeace, ça fonctionne aussi avec un engagement à la CIMAD, parce que précisément c'est la question de la façon d'habiter la Terre. Et cette façon d'habiter la Terre, à la fois humainement et fraternellement, ça me semble être une large part de notre vocation.
Alors, c'est intéressant de lier CIMAD et Greenpeace, enfin, et l'engagement écolo, pas forcément Greenpeace, vous venez de le dire.
Oui, oui.
C'est en fait, c'est une façon d'habiter la Terre, vous venez de le dire, mais comment ne pas échapper aussi à la piège de la culpabilisation? Comment avoir un message auprès des gens sans les culpabiliser dans ces domaines-là? Surtout dans le domaine de l'écologie.
Alors là, bon, c'est une question de communication politique. Je crois que sur le plan politique, la plupart des partis se sont verdis, mais se moquent totalement de la question. C'est vraiment pas leur problème, parce qu'il y a des enjeux à court terme qui leur semblent plus importants. Je crois que pour ceux qui sont vraiment écolos, la question de ne pas devenir des moines soldats de l'écologie est une question qui doit se poser, effectivement. Comment on peut faire du vivre ensemble, d'habiter la Terre fraternellement, respectueusement, et vis-à-vis de la nature, et vis-à-vis des autres, comment ça peut être un projet qui rassemble, mais qui de toute façon ne peut pas se développer ni dans l'angoisse, ni dans la culpabilité. Parce que l'une et l'autre amènent à des impasses. Voilà. Et donc, moi, comment faire ? Ben, c'est peut-être déjà relativiser la question de la création et de la nature, et dire au fond, l'être humain, il fait aussi partie de la création, et que je sache, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était là avant que l'homme ait agi. Et donc, le bien et le mal, il est là, il est déjà toujours là, il y a toujours un chaos qui nous précède. Et dire qu'on est sauvé, au fond, se battre parce qu'on est sauvé, et non pas se battre pour se sauver, et à cet égard, la parabole de Paul dans le livre des Actes en pleine tempête est très parlante. Voilà, ça me semble être ce que nous devons porter.
Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette phrase, se battre, non pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Ça restera en tout cas dans ma mémoire. Alors, merci donc Didier. Je rappelle, entre humus et souffle, donc tous les seconds vendredis du mois, à 13h20, sauf si ça change, parce que on est encore dans une période d'adaptation de la grille. Mais enfin, pour le moment, c'est prévu comme ça. Alors, merci beaucoup Didier, et merci à nos auditeurs que nous retrouvons, puisqu'ils nous sont fidèles. Au revoir.
Merci Yolande, merci à tous. Au revoir à tous et à toutes.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.